L'histoire de l'Ukraine et de la Russie sont des histoires tout à fait séparées. Quand les Petchénègues, ces tribus turques mongoles, ont commencé à envahir la Russie, les Russes ont pris le chemin du nord et d'autres Russes, enfin c'était une confédération de tribus slaves qui parlaient un langage slave, enfin proto-slave, ni le russe ni l'ukrainien, se sont partagés en deux. Alors les unes ont pris le chemin du nord et sont tombées alors complètement sous le régime des Tatars. Et les Tatars les ont formés, leur ont donné leur civilisation, c'est-à-dire l'État russe est, disons, donc, qui a été modelé par les Tatars. Et le grand prince de Moscou, sur le plafond de Saint-Vladimir le Grand, c'est-à-dire des églises de Moscou, montre sa généalogie. Alors la partie dont il est très fier, qui est la partie d'origine byzantine. Vous savez que le pape a voulu qu'on marie la dernière paléologue byzantine avec le tsar russe. Il espérait que la Russie entrerait dans une croisade, mais c'est pas du tout ce qu'a fait la Russie. Elle a pensé à autre chose, et c'est là qu'elle a pensé à devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire le cœur d'une secte qu'elle a appelée l'Église orthodoxe russe. Mais il y avait aussi les généalogies tatars dont il n'était pas moins fier et qui faisaient que la Russie n'était pas seulement la fille de Constantinople, mais la fille de Saraï. Saraï était la ville de la basse Volga à partir de laquelle elle était gouvernée pendant des siècles. Bon, une autre partie de ces tribus slaves, proto-slaves, ont été vues plutôt vers l'est et le nord et sont devenues une partie de la royauté lituanienne. Et elle est entrée, comme vous savez, la Lituanie a fondu avec la Pologne, et c'est dans cette zone polono-lituanienne que s'est formé le peuple ukrainien. Et le peuple ukrainien a suivi les Polonais qui ont fait un empire polonais qui a couvert tout le sud de la Russie jusqu'aux champs sauvages, les Diki et Polia, qui étaient les champs des tribus tatars ou quasi-tatars qui vaguaient dans ces steppes du sud. Et c'est là que s'est formée la nationalité ukrainienne. Donc Kiev n'est pas la mère des villes russes. En 1646, je crois, les Cosaques, c'est-à-dire les chefferies qui gouvernaient les tribus ukrainiennes, se sont révoltées contre la domination polonaise. Et à ce moment-là, elles avaient le choix de se tourner soit vers l'Empire ottoman, ce qui n'aurait pas été mal. L'Empire ottoman, les reprenant, l'Ukraine serait devenue une grande Roumanie et serait émergée tranquillement au XIXe siècle, comme un État tout à fait séparé, comme la Roumanie, soit se tourner vers la Russie. Et c'est finalement vers la Russie que s'est tourné pour demander protection, et c'est le traité de Pereyaslav, je crois, qui, sous la direction d'un de ses chefs cosaques, Bogdan Khmelnytsky, cette révolte a été terrible. Elle a anéanti toute la partie polonaise de l'Ukraine et les Juifs qui étaient là. Hein. Ça a été un massacre de Juifs et de Polonais. Une fois qu'ils sont tombés sous la protection russe, ils ont vu ce que c'était. D'abord, Pierre le Grand a pris les chefs cosaques et les a emmenés construire Pétersbourg, dont peu sont rentrés. Et puis, les chefs cosaques, les cosaqueries, ont été envoyés en Sibérie, dans le Caucase, etc. Si bien que l'Ukraine a perdu sa classe dirigeante, dans la mesure où elle avait une classe dirigeante, c'était pas grand-chose. Enfin, elle a laissé les Polonais gouverner la partie rive droite du Dniepr, pendant qu'elle s'occupait de la rive gauche. Alors, de la rive gauche, elle a envoyé des colons russes. Donc vous avez eu une russification partielle de la rive gauche du Dniepr, pendant que la rive droite restait quand même de civilisation polonaise. Ce qui fait que pendant un siècle ou deux, l'Ukraine a été beaucoup plus civilisée que la Russie. Et la Russie, ça a été un réservoir à partir de l'université gréco-catholique de Kiev, qui s'appelle l'université Bogila. L'Ukraine a fourni les premiers cadres européens à la Russie. Avant les cadres allemands, avant les cadres hollandais, vous avez eu les cadres ukrainiens. Et ça, c'est important à noter. L'Ukraine qui est à civiliser en partie la Russie. Alors, deuxièmement, je voudrais vous parler de la situation religieuse. D'abord, vous avez en Ukraine une église qui s'est appelée gréco-catholique. Elle s'est formée sous Ivan le Terrible, parce que les évêques étaient terrifiés de la façon dont les choses se passaient en Russie. Ils se sont tournés vers... Ils ont demandé au pape de les protéger tout en gardant leur liturgie, très belle d'ailleurs, et leur doctrine orthodoxe, le catéchisme orthodoxe, mais simplement sous la protection du pape. Cette église s'est appelée l'église uniate, hein, parce qu'elle était unie au Vatican. En même temps, les Polonais les embêtaient parce qu'ils ne voulaient pas que la liturgie subsiste, la liturgie orthodoxe subsiste, donc ils se sont efforcés de les latiniser, ce qui n'a pas plu à l'église gréco-catholique. Et puis en même temps, les Russes se sont également occupés d'elle et l'ont exterminée à plusieurs reprises. Les moments les plus exterminants de la part des Russes ont été Nicolas Ier, qui a supprimé cette église et qui l'a réduite à entrer dans l'église orthodoxe russe. Et la deuxième extermination, qui a été très bien faite, a été faite par Staline en 1945, quand cette Ukraine est retombée sous le joug russe. Ça pourrait être sous le joug allemand. Le Vatican est très prudent vis-à-vis de ces... Elle contient à peu près un quart des Ukrainiens, surtout dans l'Ouest. Elle est très active et elle réclame de Rome une reconnaissance qu'elle n'obtient pas. Enfin, là, bien sûr, elle a une reconnaissance à Rome, elle n'a pas beaucoup d'honneur. Elle voudrait un patriarche, et il n'y en a pas. Rome refuse de donner un patriarche parce qu'il est prudent vis-à-vis de l'Église orthodoxe russe. Alors, l'Église orthodoxe russe, pendant ce temps-là, elle a fait son travail. D'abord, elle a empêché autant qu'elle a pu l'Église de renaître, elle a gardé les églises, elle a rendu très difficilement les églises qui avaient été orthodoxisées, et elle a établi un patriarche particulièrement pourri, plus pourri que le patriarche officiel russe, qui est le patriarche numéro 2, alors que c'est l'Église orthodoxe dissident d'Ukraine, mais il n'est pas très honorable, bien qu'il ait beaucoup de fidèles. Il y a encore un autre patriarche qui est apporté par les Ukrainiens du Canada, et très nombreux d'ailleurs, qui soutiennent, qui est un appui de l'Ukraine en ce moment. 70% des églises orthodoxes ukrainiennes sont sous la juridiction du patriarcat de Moscou. Et j'ai toujours dit aux Ukrainiens qu'ils n'auraient vraiment leur indépendance que le jour où ils obtiendraient l'autocéphalie, c'est-à-dire le jour où le patriarche de Kiev, hein, serait enfin reconnu par le patriarcat œcuménique de Constantinople. Mais Rome ne pousse pas dans ces directions, et le pauvre patriarche de Constantinople, qui n'a que 2000 fidèles, encore qui est sous la surveillance très étroite des Turcs, et également des Grecs qui veulent récupérer le patriarcat œcuménique, le patriarcat de Constantinople n'ose pas donner une autocéphalie aux Ukrainiens, si bien que 70% des églises ukrainiennes sont sous la juridiction du patriarche de Moscou, qui est Cyril, je crois
et, Cyril.
Et qui est représenté à Kiev par un hiérarque. Et à la mort de ce hiérarque, on pensait qu'on pourrait avoir quelqu'un qui prit la cause des Ukrainiens, mais non. Moscou a veillé à ce que ce soit un patriarche particulièrement dur, particulièrement russe, qui prenne donc la tête de l'Église ukrainienne et au-delà la soumission au patriarche Kirill, c'est-à-dire à peu près au KGB. Alors, l'impérialisme russe a des traits particuliers. Il n'emploie jamais le mot de conquête, mais le mot de réunion. L'Empire russe, et c'est son titre officiel à partir de Pierre le Grand, la Russie a changé de nom, s'est appelée Empire russe. Avant, elle avait le nom de Russe, qui veut dire russe, un ancien mot scandinave appelé par les Suédois qui ont dans le au temps de Charlemagne, on réunit les tribus slaves et on formait une espèce d'État autour de Kiev. Les Russes ne sont pas une nation. Ils ne sont jamais présentés comme une nation. Ils sont présentés comme le peuple russe et comme l'Église. Et l'Église est, depuis le XVIe siècle, moi c'est ce qu'ont dit les moines de Pskov et de Novgorod qui ont présenté cette doctrine, ils se sont présentés comme le seul État chrétien, et comme la seule Église qui existait sur Terre. L'Église grecque était tombée sous le pouvoir des Turcs, et l'Église latine était une Église schismatique et hétérodoxe. Si bien que la seule Église orthodoxe dans le monde, c'était l'Église russe, et le seul peuple chrétien, ou la seule nation chrétienne, ou le seul... Bon, domination chrétienne, c'était la domination du tsar russe. Et ça c'est demeuré. Alors, si vous avez une certaine sécularisation de cette doctrine, c'est-à-dire de l'Église orthodoxe dominant une certaine zone, la seule zone chrétienne de la Terre, sous Pierre le Grand. Sous Pierre le Grand, il est devenu, comment dirais-je, un empereur séculier, mais toujours un empereur, et jamais ne représentant la Russie. La domination impériale de Pierre le Grand est une domination par charte sur les pays baltes, qu'il a conquis les pays baltes, les nobles baltes qui étaient pour mieux exploiter les peuples qui ont été soumis, ont préféré le tsar russe à la domination plus gentille, suédoise ou prussienne. Ils se sont trouvés que le tsar, c'était plus sérieux pour garder leur peuple. Ensuite, l'Ukraine. Ben, l'Ukraine, c'était la Russie. L'Ukraine a été quand même suffisamment dépeuplée, massacrée, comme je viens d'expliquer, pour être fondue dans la Russie. Quand j'ai voulu apprendre l'histoire ukrainienne, ben, j'ai eu du mal, parce que tous les livres n'en parlent pas. Et les livres, plus ou moins, de la Russie, mettent l'Ukraine comme la petite Russie, comme une zone absolument sans autonomie, sans exactement ce que nous dit Poutine aujourd'hui. C'est que la Russie, c'est que l'Ukraine n'a jamais un État, l'Ukraine dépend complètement de la Russie. Depuis quelque temps, vous avez eu une désoccidentalisation de la Russie, comme ça, sous Lénine et sous Staline, il a voulu faire une révolution mondiale, un peu comme voulait faire Ivan le Terrible, parce que les seuls qui ont le droit de gouverner sont les orthodoxes. Et les Lénine et Staline se sont présentés comme les représentants d'une autre orthodoxie, mais non moins sévèrement surveillés que l'ancienne orthodoxie par les tsars. La nouvelle orthodoxie, c'est le parti communiste de l'URSS. Cette doctrine nouvelle, communisme, s'est écroulée. C'est écoulé en 1990 et immédiatement la Russie est revenue à la doctrine du seul État chrétien. Du seul État chrétien, et c'est actuellement la conversion au russisme et à l'Église orthodoxe qui est demandée aux populations soumises. Ils ont réussi comme ça à reslaviser les Tatars et à les faire entrer dans l'Église orthodoxe. Et puis à faire entrer, évidemment, les Ukrainiens également dans l'Église orthodoxe. Si bien que la Russie conquiert à la manière d'une Église, si l'on peut dire, mais pas à la manière d'une nation ou même d'un empire. Il s'agit toujours d'une réunion de peuples qui avaient vocation à se regrouper autour du peuple russe. La Russie ne conquiert pas, la conquête ne fait pas partie de la gloire du peuple russe, comme... La conquête par les Français ou par les Anglais de leur peuple respectif, non, il s'agit d'une réunion. Et actuellement, le Poutine vise à la réunion du peuple ukrainien qui est à une partie du peuple russe. Et c'est de nouveau le thème de la petite Russie qui domine. J'en profite pour dire que la pointe la plus aiguë de l'impérialisme russe, c'est de nouveau l'Église orthodoxe. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment... la légèreté extraordinaire du Quai d'Orsay et des dirigeants français pour laisser installer devant la Tour Eiffel, ou non, à côté de la Tour Eiffel plus exactement, un énorme centre qui est en construction aujourd'hui et qui va servir de base orthodoxe. Base orthodoxe, c'est-à-dire que vous aurez là-dedans des centaines de popes dépendants de Moscou qui sont en même temps des popes du Guébé, parce que quand on est un pope orthodoxe, on dépend également du GB, du FSB, des services secrets soviétiques. On voit aujourd'hui, on compare les fosses communes. Alors les fosses communes contiennent à peu près autant de gens de part et d'autre. Le nazisme, de 33 à 45, a tué environ 10 millions d'innocents. Je ne parle pas des pertes militaires. Je parle des pertes d'innocents, de civils. 10 millions de personnes, d'après Snyder. Et les Russes, Staline, pendant le même temps, a tué 10 millions de personnes. Donc on est passé des camps allemands, des camps d'extermination allemands, et les camps russes d'extermination, qui ont donné cette idée que le nazisme et le communisme, c'était pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pareil dans les résultats. Ça atteint la totalité de l'humanité qui sera détruite. Ils n'ont pas eu le temps de détruire. Enfin, bon. Mais sauf pour des motifs différents. Et le communisme est une doctrine complète, comme vous savez, qui est une doctrine sociale, qui suppose une recréation autour de la partie de la population qui est entraînée à la pensée communiste. Et la pensée nazie, de son côté, forme une portion de l'humanité qui doit régner, et le reste doit être détruit. Donc, si vous voulez, dans les effets du communisme et du nazisme, nous trouvons une analogie des méthodes, mais voyons quand même, et gardons toujours à l'esprit, que les motifs sont différents, que les doctrines sont différentes. Autrement dit, vous n'avez pas un seul démon sur Terre, mais vous en avez deux qui ont été en conflit d'ailleurs, et à la fin d'ailleurs, l'un des deux seulement a gagné. Alors la question de la naissance du parti poutinien, du parti russe en France. D'abord, il faut considérer que la France a un tropisme vers la Russie, qui date essentiellement, disons, enfin, qui a plusieurs causes, il y a plusieurs tropismes. L'idée de la table rase et du pays qui construit, l'idée du pays qui n'est pas démocratique et qui défend les valeurs anciennes, surtout l'idée qui prolonge, que la révolution russe prolonge la révolution française. Donc le nationalisme est content de voir la nation russe prendre le relais de quelque chose de français qui est la terreur et la révolution française. Donc vous avez, à cause de cela, vous avez eu une gauche qui a été attirée par le communisme et par la Russie, et même qui s'est transportée spirituellement en Russie, et qui imitait les mœurs et les manières de parler des Russes. Vous l'avez eu dans le Parti communiste français, ça a duré une quarantaine d'années, jusqu'à ce que ça s'effondre, mais le Parti communiste a gardé son nom, c'est le seul parti, à ma connaissance, c'est le seul parti du monde entier qui a gardé le nom de Parti communiste, alors que les communistes italiens ont changé de nom, les communistes finlandais, les communistes portugais, pourtant ils étaient nombreux, mais ils ont changé de nom, ils ont changé de doctrine, pas les communistes français. Le tropisme français, il n'est pas solitaire. Vous avez un tropisme allemand vers la Russie, qui est tout à fait différent, comment dirais-je, qui dès au XIXe siècle, cette idée, et qui est plus mystique, plus religieux, cette idée, comme dit Rilke, que c'est un peuple plus proche de Dieu, que c'est un peuple johannique, c'est un peuple idéal. Nietzsche détestait les idées anglaises, mais par contre, il était très favorable à la Russie. Nietzsche était très, très slavophile, ainsi que Rilke, que Georg Goebbels. Vous savez donc, entre les deux guerres, une portion des Allemands qui voulaient un régime semblable à celui des Russes, de collaboration étroite avec la Russie. Vous avez un tropisme américain vers la Russie. Alors là, c'est tout à fait différent. C'est cette idée de deux peuples dominant un immense espace et capables d'être de part et d'autre de la division qui existe, d'être deux peuples pionniers qui maîtrisent un continent immense et qui existent comme ça, qui n'ont pas les sophistications de la vieille Europe, ni les poisons de la vieille Europe, mais qui sont neufs, avec qui on peut s'entendre. Vous avez donc un tropisme américain. Vous avez un tropisme juif vers la Russie. Vous verrez que dans la propagande israélienne, Israël est très très prudent sur l'Ukraine, il ne se presse pas du tout de prendre position, mais d'une façon générale, on se plaint des Polonais, on se plaint des Ukrainiens, on ne se plaint pas des Russes, très rarement. On se plaint des Français, enfin partout, n'est-ce pas, dans le monde, les Juifs dénoncent les peuples qui sont responsables, à certains égards, de la Shoah, par exemple. Eh bien, la Russie n'est pas responsable de la Shoah. Et de fait, elle n'est pas responsable de la Shoah, de tous les peuples d'Europe. On accuse les Ukrainiens, on accuse les Français, on accuse les Polonais. Les Russes, en tout cas, ont permis à beaucoup de Juifs de filer vers la Sibérie, de se réfugier dans le fin fond de la Russie et d'échapper ainsi à l'extermination nazie. La Russie a été le premier pays qui a reconnu Israël. Il n'était pas non plus oublié par le peuple juif. Donc vous avez un tropisme des Français, des Allemands, des Américains et des Juifs vers la Russie. C'est plutôt un élan du cœur, c'est plutôt une espèce de sympathie que quelque chose de formel et de politiquement articulé. Alors, comment se forme le parti russe en France? D'abord, vous avez la propagande russe qui est extrêmement active. Actuellement, la France est inondée, ça c'est ce que m'a dit quelqu'un qui travaille à la DST, elle est inondée d'espions russes, de services russes, comme jamais elle ne l'a été. Vraiment, que ça a été bien plus qu'au temps de Staline. C'était même étonnant. Et comme la France est très perméable, et qu'elle a en plus des choses qui intéressent les Russes, comme de la technologie, donc la Russie est là. Et pour faire sa propagande, donc il faut toujours compter que elle a autant d'argent qu'il faut pour ça. Elle a tant d'argent qu'il faut parce qu'on achète pas mal les espions, les services. Enfin, et quelquefois, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont achetés, mais ils le sont quand même. Et il y a toujours assez d'argent, même le pays est en grande crise, le pays, par certains égards, est misérable, il ne se développe pas, mais l'argent pour la domination, il y en a toujours. Et ça, la Russie est très généreuse. Les partis russes également se conjuguent à droite et à gauche en France. Il recrute dans tous les milieux. Il est à gauche, moins fort que peut-être qu'à droite, mais enfin, il existe quand même. Monsieur Mélenchon est poutinien, il le dit, par anti-américanisme, par anti-capitalisme, par souverainisme. Monsieur Chevènement l'est aussi, par anti-américanisme, et il est à gauche, et par souverainisme. Donc, il y a un parti poutinien qui existe à gauche en France, et qui est subventionné, évidemment, par la Russie. Par exemple, tiens, Le Figaro, je crois que c'est l'Observateur, qui a publié un rapport sur la famille Le Pen. La famille Le Pen est quand même subventionnée largement par la Russie, le grand-père, le fils, tout ça. Et la fille, plus exactement, s'est subventionnée largement, à chèque ouvert, carnet de chèque ouvert, par la Russie. Ça, c'est quand même un document étonnant. Je ne mets pas la Madame Le Pen à droite ou à gauche, elle combine tout, si vous voulez, elle peut avoir les opinions de droite et les opinions de gauche poutiniennes. Mais enfin, en tout cas, elle est poutinienne à bloc, à fond. Vous avez alors, dans une droite traditionnelle, là, vous avez également un parti poutinien qui se constitue. Les Manifs pour tous, et bien la présidente des Manifs pour tous a été se faire féliciter à Moscou, par M. Poutine. Elle a été reçue, Mme Dutheil de la Rochère, elle a été reçue par Poutine, qui l'a félicitée du bon travail qu'elle faisait pour défendre les valeurs que la Russie défend, et qui sont les valeurs chrétiennes traditionnelles. Vous savez que l'homosexualité est très sévèrement introduite en Russie, le moralisme russe est très fort, et ça plaît à une certaine partie de la droite catholique française. Vous avez également un parti poutinien assez fort dans l'armée française. Pas négliger. Faut pas négliger ça. Que le poutinisme, par exemple, dans les tractations autour du fameux bateau qu'on va vendre ou qu'on ne va pas vendre à la Russie, vous avez quand même l'opinion de beaucoup de militaires qui trouvent qu'il faut vendre. Et la Russie, d'ailleurs, est un acheteur d'armes important de l'industrie et d'armement de la France. Donc il se constitue un parti russe par tropisme et tendresse, culturelle, hein, par Monsieur Ferry, n'est-ce pas, a dit que les sanctions étaient complètement mal placées, étant donné que la Russie était le siège d'une grande littérature. À cause de Tolstoï, à cause de Dostoïevski, on ne peut pas faire des sanctions à la Russie qui envahit l'Ukraine. Hein, ce n'est tout simplement pas possible. Eh bien, beaucoup de gens pensent comme ça, n'est-ce pas, que la Russie est protégée par les balais russes, et ressort d'ailleurs par les cœurs de l'armée rouge, n'est-ce pas, qui, dans les vieux uniformes, continuent de circuler à travers la France. Hein, oui, peut-être qu'on les a changés depuis, mais enfin, dans les vieux, ils avaient toujours ça marchait. Donc la France aime la Russie, comme je l'ai dit, un tropisme français, par subvention. Et nous avons un quai d'Orsay très faible, qui très rarement connaît bien la Russie. Les ambassadeurs que j'ai vus se succéder à Moscou sont des guignols. Ne connaissent rien au pays et ont l'œil essentiellement sur le tableau d'avancement. Hein, pour essayer, au bout de 3 ans, parce qu'il reste très peu de temps, avant de partir. J'en dirais pas autant de tous les diplomates. Par exemple, j'ai connu en Pologne, en Ukraine d'ailleurs, d'excellents diplomates. Très bons, mais qui c'est moins glorieux. Ils visaient d'aller à Moscou, mais ils n'iront pas. Le Quai d'Orsay met toujours plutôt des guignols dans ce poste très essentiel. L'extension de l'Empire russe se fait par un procédé que ne connaît pas l'Occident, qui est celui de l'aide fraternelle. L'aide fraternelle qui est quand même... le moyen, si vous voulez, voilà comment ça, je crois que ça a été montré dès l'époque de la conquête de la Mongolie extérieure en 1922, quelque chose comme ça. Vous fabriquez un parti pro-russe dans la zone définie, vous en faites un noyau insupportable qui rend la vie impossible à l'État ainsi paralysé, enfin, et après ça, on vient au secours de noyaux, et c'est ce qu'on appelle l'aide fraternelle. Ça a été appliqué même quand le système russe était très très primitif, il y a de l'excellente diplomatie, marchait l'excellente diplomatie de Pierre le Grand, et c'est comme ça qu'on a conquis la Pologne. Là, l'État russe se faisait le protecteur des libertés polonaises, c'est-à-dire empêcher le passage à la monarchie absolue et à laisser l'anarchie polonaise se développer. Après quoi, il a acheté un certain nombre de nobles, de grandes familles polonaises, les Radziwiłł en particulier, les Radziwiłł.
La schröderisation.
Et après ça, l'aide fraternelle est venue et toujours applaudie par l'Europe qui est venue au secours, parce que quand même, c'était sauvé le principe de raison, c'était sauvé le principe de liberté, et c'était surtout la destruction de l'Église catholique qui opprimait la Pologne. C'est pour ça que Voltaire était à fond pour la conquête polonaise par ce procédé-là. La France n'a pas une histoire unitaire. La France a été une histoire partagée en deux par la Révolution française. Et depuis ce moment-là, à part l'épisode fragile de la Troisième République qui a accepté de parler de l'ancien et du nouveau régime, ben la Russie prend tout dans l'histoire russe, et particulièrement Staline et Ivan le Terrible, voilà, qui donne l'éventail complet des procédés russes avec Pierre le Grand. Le seul qui soit un peu sur la touche, c'est Lénine. Il est toujours partout sur les places publiques. Vous avez autant de statues Lénine, il n'y en a pas beaucoup de Déboulonnais. Mais enfin, Lénine le cède à Ivan le Terrible, Pierre le Grand et Staline, qui sont les trois héros russes principaux. Voilà.